On est dans le cours de masculinité et féminité selon Dieu. On a vu la masculinité selon Dieu et la féminité selon Dieu. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'un peu différent. Qu'est-ce qui se passe dans notre société? La confusion des genres. Qu'est-ce que c'est en tant que tel? Mais juste avant que je réponde à cette question-là, nous savons que la chute a transformé les domaines de la vie courante. Ça comprend notre masculinité, notre féminité, et y compris nos genres aussi. Maintenant, j'ai deux questions que j'aimerais répondre aujourd'hui avec vous. La première, mais comment devons-nous réagir face à une personne qui sent qu'elle est née avec le mauvais sexe? Question délicate. Et à la deuxième, comment pouvons-nous réagir avec amour et vérité à la montée en popularité de l'identité transgenre? Comment agir avec amour? Je vais vous dire deux histoires, une de Montréal et une des États-Unis. Annie Pollen, sans façon, qui habite dans l'ouest de Montréal, qui vit avec son mari et ses deux fils, Alex et Olivier. Elle mentionne dans un article de Radio-Canada, publié en décembre 2013, qu'Olivier avait le désir d'être une fille dès sa première journée de maternelle. Elle n'a pas oublié qu'est-ce qu'Olivier lui disait. « Mais maman, pourquoi pas le droit de mettre une jupe ?» Olivier, qui s'appelle désormais Oli, a commencé progressivement sa transition vers le sexe opposé à l'âge de 7 ans. C'est le plus jeune cas qu'il y a au Québec, et le premier aussi. Ça, c'était en décembre 2013 que Radio-Canada faisait ce reportage. Aux États-Unis, octobre 2013, un article dans le Rolling Stone étale un enfant de Colorado, Mathis Coy, était âgé de 4 ans. Il était certain d'une chose, qu'au-dedans de lui, il n'était pas un garçon. Il disait à ses parents qu'il était une fille. Ses parents étaient confus au début, troublés. Mais au fil du temps, ils se sont rendus aux arguments de leur fils de 4 ans. Ils ont rempli son garde-robe de robes roses et se sont engagés contre une bataille juridique avec l'école élémentaire de Mathis pour qu'il ait droit aux toilettes des filles. Des histoires comme ça, il y en a plusieurs. Mon but est juste de vous évoluer quelques histoires qui énoncent là, un problème qui va venir, qui est là déjà à Montréal. Plusieurs personnes font un débat maintenant au Québec par rapport aux toilettes et aux vestiaires. La ministre a dit une jeune fille qui a fait un changement vers une jeune fille va dans une toilette de fille. Mais ceux qui sont entre les deux, c'est une vraie confusion. C'est une problématique. Pour l'instant, on peut voir dans quelques places publiques ce signe-là. À Montréal et dans les grandes entreprises privées. La femme, à gauche, l'homme, à droite, et au milieu, entre les deux. La transition, transgenre, ni homme ni femme, comme s'il y avait un troisième sexe. OK? Genre masculin, féminin et transgenre. Ça peut être en processus, ça peut être... C'est juste pour dire qu'il n'y a aucune différence. Nous parlons aujourd'hui d'une popularité. C'est vraiment comme une pression qu'il y a. J'ai mis cette image qui parle de « j'aime les hétéros ». J'aime mes amis hétéros. Je veux juste pas que mes enfants grandissent en pensant que c'est normal. Une pression sociale qui nous amène sur ça. Une pression qui est faite par les écoles, par les médias. J'aime qu'est-ce que c'est Denise Bombardier qui écrit dans le journal de Montréal. La théorie du genre, c'est une confusion des sexes si chère à une ultra-minorité. Elle dit, les lobbies qui représentent d'infimes minorités ont une diffusion médiatique inversement proportionnelle à leur nombre. Ça fait même des projets de loi pour la SAAQ, parce qu'on a masculin, féminin. Donc, évidemment, ils sont en train de penser comment faire avec ceux qui sont d'étrangers ou ceux qui sont en processus, ou ceux qui se disent femmes, hommes, mais ne sexe masculin. Elle conclut son article en disant, c'est donc une déconstruction de l'humanité et de ses valeurs universelles. Pas chrétienne du tout, là. Une des rares personnes publiques à s'opposer, à mettre son pied. Mais c'est encore une pression sociale. Parmi nous, quand c'est une minorité, c'est une réalité qu'on vit, qu'on va vivre. Si vous n'avez pas encore vécu, que vous allez vivre. Dans le cadre de mon travail, il faut que j'aille voir des locataires, des personnes. Et puis, un des locataires que j'avais vu il y a quelques mois pour un problème était une jeune dame, 5 pieds 4. Elle était en transition, mais ça paraissait qu'elle était une dame. Dernièrement, 6 semaines à peu près, je suis allé la voir. J'ai vu un homme plus large que moi et musclé. J'aurais jamais su que c'était une femme avant. Dans son cas, c'était réussi. Quand je parle de réussi, visuellement. Gay, visuellement. Mais ce que vous dites, ça peut être choquant. Ça peut être troublant. Mais c'est une réalité pareille parmi nous. Donc ce matin, ce que nous voulons voir ensemble, ce qui est important, c'est explorer une théologie biblique du genre. Que dit Dieu sur ça? Que dit la Bible sur cela? Et non, qu'est-ce que nous on pense? Qu'est-ce que Dieu dit sur cela? On ne veut pas attendre que ça arrive parmi nous et qu'on... On ne sait pas comment réagir, mais qu'on soit préparé à savoir qu'est-ce que dit Dieu sur ça. Et la deuxième chose, c'est d'envisager des implications pratiques sur la manière d'aimer ceux que nous connaissons qui vivent une confusion de genre. Parce que c'est vraiment une confusion de genre. Et on va le voir. Je ne vais pas parler des lois ni de la politique. Mais je vais aller encore plus profond que ça. Comment que Dieu nous a créés. Et la beauté de Dieu dans sa création, comment Dieu nous a créés. Qui est beaucoup plus important. Donc, on va aller voir la théologie du genre. Premièrement, si on se rappelle, Genèse 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc on voit que Dieu créa. Et au verset 31, il dit que c'était très bon. On se rappelle de ça? Pas juste bon, mais très bon. Ou très beau, selon des versions. Donc on voit que les hommes et les femmes sont égaux dans leur dignité et dans leur valeur devant Dieu. On voit que hommes et femmes sont le joyeux esquisse de la création. On peut le voir dans le psaume 8, le summum de sa création. On peut voir qu'on est couronné de gloire et de splendeur dans le psaume 8. Waouh! J'aime quand le psaume 139 dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. » Et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139, un rappel. C'est pas juste David qui est une créature si merveilleuse. Nous sommes créatures merveilleuses. C'est pour toute l'humanité. Donc les hommes ont reçu une responsabilité, on avait vu ça, pour démontrer le soin paternel de Dieu, l'amour protecteur et sacrificiel. La femme a été créée magnifiquement aussi pour porter des aspects à la ressemblance de Dieu, comme une aide à son peuple. Il donne la vie, il nourrit, il soutient les enfants. Et une chose que je veux juste nous rappeler, pour ceux qui sont parents, c'est pas donné à tout le monde, mais pour ceux qui sont parents, et que les enfants nous demandent c'est quoi un homme, c'est quoi un garçon, c'est quoi une fille, de se rappeler de cela, de lui inculquer ce que dit Dieu, que nous sommes créés à l'image de Dieu, et non à des stéréotypes culturels. On va voir plus tard une différence. Parce que une des choses que l'homme et la femme ont en commun, on est fait à l'image de Dieu, malheureusement, on est entaché du péché, mais on a une possibilité d'être racheté en Christ, et co-héritier avec Christ et rempli du Saint-Esprit. C'est important. C'est ça qu'on devrait enseigner à nos enfants. Maintenant, dans la colonne de gauche et de droite, il y a les différences de la masculinité et de la féminité. Il y a les différences qui font que c'est nos particularités, nos genres, sur la Bible. Mais il y a aussi des expériences culturelles aussi de la masculinité, qui va des habits, des cheveux, de la couleur, rose, bleu, de style d'emploi, selon les années. Il n'y avait pas d'ingénieur en 14e siècle, c'était pas pareil que maintenant. La construction n'était pas pareille non plus. La dynamite n'était pas employée de la même façon. Ça change, c'est culturel. Et en général, la Bible n'en parle pas. Mais il faut juste faire attention. Il faut une grande sagesse à cela par rapport aux aspects culturels pour pas que ça vienne passer au-delà des valeurs bibliques, mettre de côté les valeurs bibliques. Mais à l'opposé, la vision du monde est totalement différente. Il y a des spécialistes qui veulent distinguer le sexe et le genre, ceux qui expliquent les deux boîtes. Le sexe seulement biologique, donc on a des hormones masculines ou féminines, une autonomie et des hormones différentes. Le genre est plus psychologique. Il appartient à votre sens intérieur de l'identité. Il est socialement défini, incluant les choses comme le comportement, l'apparence, les vêtements, les rôles. Ce n'est pas une vision de la Bible, de Dieu, là, du monde. Des penseurs affirment même que les bébés naissent sans genre. Et pendant un temps, même qu'ils n'ont pas de genre. C'est de là que vient le slogan « L'anatomie n'est pas le destin ». Ce qui affecte aussi l'orientation sexuelle aussi. Donc ça, c'est la vision du genre. Et qu'on vient de l'homo sapiens, du singe. C'est pas une vision que tous nos chrétiens adoptent comme ça. Mais c'est une popularité enseignée dans nos écoles et dans les médias. Ça a beaucoup d'influence. Même chez les chrétiens. Mais en fait, une chose, la Bible rejette complètement cette compréhension-là. Complètement. Maintenant, quel est notre genre? Un masculin pour un homme, féminin pour une femme. Tout ça, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau, y compris notre corps, notre identité et les rôles auxquels que Dieu nous appelle. Et s'il y avait une chose que j'aimerais que vous vous rappeliez, c'est un cadeau de Dieu, prévu par Dieu. Ça inclut notre corps, notre identité et nos rôles que Dieu prévoit pour nous. J'ai une question pour vous. Pourquoi certaines personnes semblent-elles éprouver de la confusion ou des conflits intérieurs au sujet de leur sexe? La chute nous a corrompus dans le corps et dans l'esprit. La chute, pas juste notre péché que nous on fait, la chute originelle, la tâche originelle. Tantôt, j'ai dit, notre genre, dans l'humanité, qu'est-ce qu'on a de commun entre femmes et hommes? On peut être racheté de notre tâche, de notre problème de péché. Et ça, c'est important qu'on se rappelle. La chute est une des causes des maladies, est la cause de maladie, est la cause de la mort. Sans la chute, il n'y aurait pas eu de mort. Est-ce que Adam et Ève avaient un problème d'être nus dans le jardin? Mais après, d'avoir péché, est-ce qu'ils avaient un problème? Avant la chute, est-ce qu'ils avaient une confusion des genres? Est-ce qu'il y a une confusion de leur rôle? C'est venu après la chute, après le péché, après que la mort est rentrée dans le monde. Et c'est là la problématique. Et c'est là la guerre, le problème. Certains pourraient vous poser la question, mais qu'est-ce qui arrive de ceux qui naissent avec deux sexes? Même s'il y a toujours un qui prédomine, et que c'est très rare, on peut y répondre par la chute. C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne parlerai pas de l'homosexualité. La Bible en parle beaucoup par rapport au péché et au sang et au comportement d'homosexuel. Mais tous les principes qu'on va voir s'appliquent très facilement. Okay? Et la deuxième partie, totalement. Okay? Sans reste qu'avant la chute, il n'y avait pas de problème. Si c'est venu après la chute. Que je continue la même veine, comment un enfant de 4 ans ou de 7 ans peut décider, peut dire que non, moi je suis une femme, ou peut-être je ne juge pas le sexe que Dieu m'a donné. Qui m'a été donné par Dieu. Romains 8, 18 à 25. Verset 22, 23, là où je veux amener votre attention. Or, la création tout entière souffre, elle soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et il nous faut la rédemption dans notre corps. Et on oublie ça. La création même, donc la nature aussi, et l'homme aussi, nous souffrons de cela. Et nous avons besoin d'une rédemption. Et c'est pour ça qu'on peut dire, la chute affecte non seulement notre corps, mais toute notre personne entière, complète. Et je vous encourage, on n'a pas le choix d'amener ça à la repentance auprès de Christ. Si je fais un saut en avant, on est péché. C'est juste par Christ. Juste avant cela, la chute déoriente notre perception. Okay? Et j'aime qu'est-ce que Jérémie dit, parce que depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, le cœur de l'homme est trempeur. Au-dessus de toute chose, qui peut le comprendre? Nous avons un problème profond. Nous ne pouvons pas faire confiance à notre perception de soi afin de connaître correctement. Seul Dieu, si on veut se connaître bien, correctement, il faut connaître Dieu qui va nous dire comment nous sommes. Notre perception. Et l'exemple que je donne souvent, c'est que mes sentiments, ils bouillent à l'intérieur de moi et ils sont vrais. Mais ça ne dit pas que mes perceptions ont la vérité. Deux choses différentes. Donc je peux percevoir qu'on m'humilie, mais ça ne dit pas que le fait, c'est qu'on m'humilie. C'est la perception qui est tachée. Donc, c'est pas à le nier, mais c'est savoir que notre perception, elle est entachée. C'est une chose importante à savoir. Donc, nous devons écouter Dieu. Donc, quel est notre espoir par rapport à cela? Y a-t-il un espoir pour nous? Notre espoir, c'est Jésus. Maintenant, on dit toujours aux enfants que Jésus est la réponse à tout. Mais c'est vraiment la réponse à tout. C'est vraiment...
Dans le Proverbe 28-26, ça dit que celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré.
Il ne faut pas que le culturel devienne un fondement au même titre que le cadeau de Dieu. Il y a comme une différence. Souvent, on met beaucoup d'emphase sur l'aspect culturel. Ça montre notre priorité. Il faut que notre priorité revienne à ce qui est biblique. On peut ne pas aimer le caractère culturel qu'eux choisissent. Mais il faut savoir quelle est notre priorité. Donc moi, je dirais que, bibliquement, qu'est-ce que Dieu dit sur, et de focus sur ça. Le culturel, vraiment, quand ils sont jeunes, ça change beaucoup. Mais ce que je veux juste préciser, nous avons tous besoin de l'Évangile. OK? Et n'oublions pas que Jésus était ami des prostituées et des pécheurs. Donc, il y a une manière de faire ça aussi. Je voulais voir dans Tite 3, 3 à 7, ce que j'aime dans ce passage-là, c'est que nous étions pécheurs. Une liste de péchés. Mais lorsque la beauté de Dieu, Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés par Jésus-Christ, notre Sauveur, pour l'espérance de la vie éternelle. Donc, il y a un espoir, même pour les transgenres, même pour les parents, il y a un espoir. Pas oublier ça. Il y a un grand espoir. La vision entre la vision populaire et la vision biblique. La vision populaire, elle donne son identité est en deux choses. Et selon l'aspect psychologique et le sexe physique. Et l'un n'est pas lié avec l'autre. Et la composante physiologique, elle est beaucoup plus privilégiée. La vision biblique, créée à l'image de Dieu, je ne pense pas que je vais assez le dire okay, aujourd'hui, comme des êtres unis, corps et âme, encore esprit. Le corps est comme une partie essentielle de notre nature humaine. Et ça amène une différence espoir. Une espoir dans cette vie, pour la vision populaire. Donc ça s'arrête. Le bonheur, c'est ici, c'est maintenant, versus que nous, c'est un espoir en Christ. Christ ressuscité. Donc ça amène que après la mort, ils ont une désolation, une déception totale, fait face au jugement. Mais pour tous ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de confusion, de rôle, plus de confusion de genre. On est en Christ, plus de lutte, mais on est avec Jésus-Christ qui est ressuscité, qui nous aide aujourd'hui même à vivre cette vie-là. Et cette espérance fait toute la différence. Donc, à quoi peut ressembler notre amour envers eux? L'auteur nous a parlé d'amour, mais à quoi ça peut ressembler? Et c'est là que j'aimerais ça que vous créez et votre papier, pour savoir comment réagir avec ceux qui en font face. C'est un défi de taille, et ça on oublie souvent. Mais on le sait, mais on oublie de se le dire que c'est vraiment un défi de taille, de le verbaliser. Donc juste avant qu'on aille à la pratique, prions Dieu que nous n'ayons pas un sentiment de supériorité envers eux. Jésus, lui, il était ami des prostituées et des pécheurs. Mais nous, souvent, et ça je m'inclus moi-même le premier, on veut pas, on s'empêche, on a déjà une idée préconçue. Prions qu'on n'a pas une idée de supériorité. Prions que Dieu change nos cœurs chaque jour. Prions que Christ soit loué maintenant par nos pensées, par la suite qui va amener à nos paroles, par nos actions de chaque jour envers les autres, et aussi nos inactions, nos omissions, pour que tous nos pensées, nos paroles, nos actions, nos omissions soient pour la gloire de Dieu. Loue Christ. C'est très dur de voir quelqu'un qui n'a pas de nos valeurs, qui ne partage pas de nos valeurs. On est facile à juger. Prions pour cela. Et je voulais donner 5 façons d'aimer. Et ma soeur a raison, il faut les aimer. Il y a 5 manières que j'aimerais qu'on puisse voir en détail. La première, adopter une posture de compassion. Ça veut dire quoi ça? Faire preuve d'empathie. Tout en rappelant que le pécheur est toujours sale et jamais justifié par son péché. Mais faire preuve d'empathie de sa situation. De se rappeler que ces personnes, les transgenres, les homosexuels, sont elles aussi créées à l'image de Dieu. On les oublie de les rappeler cela. Oui, c'est vrai, ça va être confrontant. Il faut les rappeler cela. La compassion se préoccupe aussi de connaître leurs blessures et leurs défis quotidiens. Si quelqu'un vous annonce qu'il est transgenre, en particulier un membre de votre famille, comme j'ai dit tantôt, ça va être un défi de taille. Laissez-moi vous encourager à avoir comme première réponse une affirmation d'amour pour eux, pour leur personne. Ça ne dit pas d'adopter leur pratique. C'est pour ça que j'ai dit là, que votre première réponse, votre parole, première action ou inaction soit une affirmation que vous aimez la personne. Nous devons par contre partager la désapprobation de Dieu contre l'intimidation contre les autres. Et la méchanceté qui a lancé à leur endroit. Le vendredi, j'étais rentré au garage pour faire mon changement d'huile. Et puis, j'ai vu un traversi qui rentre au garage. J'ai eu des frissons, on va dire comme ça. J'étais surpris et une voix d'homme, et tu voyais des habits de femme complètement. Là, je pensais dans ma tête, qu'est-ce que je vais dire si le garagiste me donne un commentaire sur la cliente qui était juste avant moi? Je réfléchissais comment, quoi dire, quoi répondre, tout en disant que Dieu n'approuve pas, mais en même temps, de ne pas laisser l'intimidation ou une méchanceté. Donc, deux messages j'avais à apporter. L'amour de Christ pour lui et que Dieu n'approuve pas ce comportement-là non plus. Trouver comment, c'était un défi. Dans toutes les frictions que j'avais, qu'on puisse affirmer leur amour dans leur personne. La deuxième chose qui est importante, adopter une posture de compassion, mais sans oublier de parler la vérité avec amour, qui veut dire exprimer l'amour et l'engagement envers la personne et envers la relation qu'on a avec elle. Ça veut dire soyez attentif et à l'écoute auprès de la personne. Ça veut dire de poser des questions, comme on pourrait lui demander, crois-tu vraiment que cela apportera vraiment le bonheur véritable et pourquoi? C'est des questions qu'on peut poser, clarifier. Que vous, pas elle, la personne, là, que vous qui posez les questions, que vous êtes un pécheur qui a eu besoin de la grâce de Dieu et qui a besoin encore de la grâce de Dieu. Et comment Christ vous comble complètement. Partage, ça veut dire aussi partager l'espoir de l'évangile. Appelez-les à faire confiance à Christ. Ça veut dire aussi d'expliquer patiemment avec douceur les vérités bibliques. Souvent, on saute rapidement sur un verset. Demandez comment, dans ses propres mots, comment que vous l'aidez, prendre soin d'elle à partir de maintenant, sachant que vous n'endossez pas leur décision d'adopter une identité qui est rebelle, un mode de vie pécheur devant Dieu. Comment se respecter l'un et l'autre dans nos valeurs? Et encore une fois, écouter. Ça ne veut pas dire, pendant qu'elle parle, de passer une réponse. Ça veut dire d'écouter activement. La troisième manière, offrir l'espoir suprême de l'évangile. Souvent, on va beaucoup d'amour, on va dire les choses qu'on doit dire sans offrir l'évangile. C'est un manque. Offrir la croix comme solution permanente. C'est le fait qu'un Dieu saint qui juge le péché appelle toute personne à recevoir le seul pardon disponible. C'est à travers Jésus. Jésus, le Christ. Ça veut dire qu'il est ressuscité, que sa tombe est vide. Et maintenant, une solution est possible. Et notre premier but devrait être qu'il se tourne vers Jésus-Christ. Pas qu'il aime le bleu au lieu du rose. Qu'il se tourne vers Jésus-Christ et qu'il reçoit la vie éternelle. Et s'il vient, à repentance, d'être réaliste avec le changement de vie pour Christ. Parce que tout pécheur qui vient, sa repentance est difficile. Donc Jésus dit, prends ta croix et suis-moi. Pour un transgenre qui cherche à se repentir, venir auprès de Christ veut dire abandonner une fausse conception d'identité de genre et d'embrasser le genre donné par Dieu. Il peut perdre ses amis et recevoir le mépris de la communauté LGBTQ. Mais en même temps, parce que Dieu est souverain, se réjouir que Dieu sauve des pécheurs et qu'il est sauvé par grâce. La repentance, elle est possible. Parce que nous avons abandonné notre fausse identité en soi-même. Et on s'est tourné vers Christ. Et ça, c'est un miracle. C'est un miracle dans ma vie, c'est un miracle pour tous ceux qui ont tourné leur vie en Christ. On ne peut pas le faire tout seul. On doit avoir cet espoir-là. Si une femme qui a pris des hormones pour devenir un homme, elle vient barbue, elle ressemble à un homme, mais qu'elle se repente, est-ce que l'Église, l'endroit le plus sûr pour elle au monde devrait être l'Église de Jésus-Christ? Si elle se repent de son péché, qu'elle remarque qu'elle est perdue, qu'elle veut suivre Christ, l'endroit pour elle devrait être l'Église, le plus sécuritaire. Pour ça, il faudrait une sagesse, très grande sagesse des médecins et du conseil pastoral pour voir par rapport aux dangers, par rapport à des complications. Ça, c'est plus du cas par cas. Il faut que la place pour elle, la plus sécuritaire, soit l'Église de Jésus-Christ. Il y en a parmi nous qui vivent cette tension-là. Il faudrait que pour eux, que l'Église soit la place. Parce que Christ n'est pas venu sauver ceux qui croyaient pas malades, hein, ceux qui croyaient en santé. Il est venu sauver et guérir les malades, ceux qui savaient qu'ils étaient perdus sans Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir les réfugiés de la révolution sexuelle? Lorsque la promesse du sentiment de liberté due au changement de sexe ne procure pas le bonheur recherché, ou ne procure plus le bonheur recherché, est-ce que notre Église est prête à les recevoir à bras ouverts? Ça revient à dire, est-ce qu'on croit que Dieu peut conduire des transgenres à la repentance, pratiquement? Pardon? Tu peux faire tout, amen, ma soeur. Amen. Il est possible de se convertir. Il est possible qu'un transgenre se convertisse. Il est possible à Dieu. Il est possible que vivre l'attraction du même sexe, ou être cupide, ou être un voleur, et de se repentir, et se tourner vers Jésus-Christ. Pour ça, la cinquième chose, pour montrer l'amour, il faut persévérer dans la grâce de Dieu envers ceux qui rejettent Dieu, en continuant à les aimer, même si nous sommes en désaccord avec leur mode de vie, leur genre de sexualité qu'ils vivent, rebelles à Dieu, il faut persévérer dans la grâce de Dieu. Lorsque nous serons dans les congés, dans les fêtes de famille, lors des rencontres, lors des soupers, il faut avoir confiance en Dieu, que Dieu sera miséricordieux à nous soutenir lorsque nous cherchons à les respecter nos convictions et à respecter nos valeurs devant eux. Être un exemple, une lumière. Donc, cinq choses que je vous recommande pour montrer l'amour du Christ envers les transgenres ou toute autre personne en passant. Okay? Adopter une posture de compassion. Parler avec vérité et amour. Offrir l'espoir suprême de l'Évangile. Un appel à la repentance réaliste. Ils peuvent tomber. Persévérer par la grâce de Dieu. Persévérer par la grâce de Dieu. Pour conclure, prions les uns les autres à nous aimer, à aimer ceux que Dieu met sur notre chemin. Et j'aime qu'est-ce que Paul dit dans 2 Corinthiens. Qui est suffisant pour ces choses? Aucun de nous. Aucun de nous. À part le Christ, Jésus, il est notre suffisance. Pointons à lui. Pointons à lui quand on parle à quelqu'un. Pointons à lui dans notre vie personnelle. Pointons à lui quand nous servons. Et c'est là on parle de confusion de genre, mais c'est bon pour les homosexualités. C'est bon pour ceux qui sont cupides. C'est bon pour toute personne. Donc, je vous repose la question. Comment devrions-nous réagir face à une personne qui, sans qu'elle, elle est née avec le mauvais sexe? Et comment pouvons-nous réagir avec amour et vérité à la montée de la pauvreté? Comment? Avec grâce. Comment vous allez réagir? Je vais juste faire une parenthèse. On dit souvent, okay, qu'elle est aimée. Mais une différence entre que la personne se sente aimée l'espérance que comment nous l'aimons. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un peut ne pas se sentir aimé à cause de votre position. Ça ne dit pas que vous ne l'aimez pas. Donc, je peux avoir une position biblique et je l'aime selon comment Dieu me demande de l'aimer. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle se sent aimée. Donc, c'est pour ça qu'il faut parler avec vérité et amour. Pas son amour comme elle, personne d'amour, mais comment Dieu nous demande d'aimer notre femme, nos enfants. Donc, c'est très important, cette différence-là. Je vais juste ajouter un petit point. On peut ne pas l'accepter, mais il faut comprendre la personne, la connaître, poser des questions, comprendre ses blessures, ses défis, pour bien comprendre qu'est-ce qu'elle vit, et pour, après ça, amener l'évangile, à la vérité avec amour, mais dans sa réalité, pour qu'elle puisse voir amener une solution. Le jeune homme riche, Luc dit, il l'aima, tranquillement, il l'a amené à son idole. Il l'aima, juste pour oublier ça, mais il l'aima. OK? Quelqu'un pour prier?